Bonjour à chacun. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Qui détermine mes actions? Quand j'étais ado, j'étais particulièrement agacé par mes parents qui ne connaissaient vraiment rien à rien et qui décidaient toujours à ma place ce qu'il convenait de faire ou ne pas faire. Pourtant, même si quand on est adulte, on est beaucoup moins déterminé, on voit que quelque chose agit en nous. Quelque chose qui détermine ce que nous sommes. Un chant d'un groupe chrétien qui s'appelle Yatal s'inquiète de sa conscience intérieure qu'il appelle le processeur. Quel est le processeur qui pulse l'information, qui m'a mis ça en tête, ça m'inquiète. Ce chant décrit l'intériorité d'un homme. Une intériorité décrite, déterminée par des articles de foi, produits de l'éducation, produits du milieu ambiant, produit de notre foi en Dieu. Dans le langage philosophique, on appelle cela produit de la vision du monde. Celle qui détermine nos actions, notre manière d'agir. Nous avons tous des vérités que nous ne questionnons plus. Nous croyons, par exemple, que nous sommes dans des pays riches, même si relationnellement parlant, nous sommes des pauvres. Nous vivons comme des pauvres. Il suffit pour cela d'aller en Afrique ou en Asie. Nous regardons souvent le monde comme mauvais et cela détermine souvent les protections que nous mettons en œuvre pour s'en protéger. Pourtant, si on est honnête avec soi-même et que l'on regarde à nos êtres intérieurs, à nos pensées largement attirées par un égoïsme sans égal. Pour cela, il suffit de regarder de quelle manière les Français gèrent les réformes. Ils sont toujours motivés pour les réformes qui touchent les autres. Ou peut-être nous croyons aussi que les problèmes principaux de nos sociétés sont liés à une morale sexuelle qui serait de plus en plus déviante. Alors que nous ne voyons peut-être pas que le problème principal de notre société, c'est le terrible effet néfaste qu'a l'argent et son emprise sur nous. Alors ainsi nous croyons, même en tant qu'athée, nous croyons, et cela détermine ce que nous faisons. Nos engagements politiques, sociaux, environnementaux, ou parfois même l'absence d'engagement. La lettre de Paul aux Corinthiens que nous étudions depuis maintenant quelques mois a été l'occasion pour l'apôtre, son fondateur, de traiter différents problèmes qui étaient vécus par cette église. Il a passé en revue les divisions, il a dénoncé les attitudes orgueilleuses qui s'opposaient souvent à l'humilité de Jésus. Paul en a presque fini et là il s'arrête. Il veut leur rappeler quelque chose. Peut-être une croyance qu'ils avaient oubliée et qui déterminait ou ne déterminait peut-être plus leur manière d'agir. Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 34. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 34. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Cephas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit en l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. J'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèbe, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Paul, dans les versets 1 à 11, veut confirmer, verset 1, ce qu'il a déjà annoncé, verset 1. À ces vérités, ces articles de foi, les Corinthiens y ont cru. Ils les ont reçus, verset 1. Ils ont même commencé à cheminer. Ils sont d'ailleurs, le texte grec nous dit, sur la voie du salut, verset 2. S'ils le retiennent dans les termes où Paul leur a annoncé, verset 2. Car sinon, leur foi aurait été inutile. Là, il n'est plus une question de comportement, cette fois, il veut rappeler quel est l'essentiel de leur foi. Un peu comme la vérité absolue au cœur de la foi chrétienne, le non négociable, l'axiome fondamental sur quoi toute la foi s'appuie et sur le fondement duquel aussi tout pourrait s'effondrer s'il n'existait pas. Le message ne vient pas de lui, verset 3. Il est résumé ainsi. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Christ est mort non seulement pour l'ensemble de l'humanité, mais il est mort pour nos péchés. Ça, c'est un thème qui a été développé dans tout l'Épître aux Corinthiens. On peut passer toute sa vie à savoir que Christ est mort, mais il est mort pour nous. Comprendre que sa mort nous visait, nous concernait. Mais il a été aussi enseveli. La revue scientifique athée, le Journal of the American Medical Association, excusez-moi pour l'accent, la juge indiscutable. Même si Michel Onfray, philosophe français, se laisse à la remettre en doute pour les besoins de sa cause, mais c'est de la mauvaise foi. Christ est mort. Ce n'est pas un évanouissement. Il est bien mort et enterré. Mais ce n'est pas tout. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, verset 3. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela ne l'était pas moins pour les premiers disciples. Personne ne croyait, ne s'attendait à cette résurrection. Ils n'étaient pas plus crédules que nous. Mais Paul dit, une foule de personnes en ont été témoins. Il n'est pas juste apparu, comme notre traduction le dit, mais il a été vu. C'est le terme grec qui est utilisé. Ce n'est pas juste une vision, pas juste une apparition imaginaire, pas juste une expérience subjective, produit de je ne sais quelle substance hallucinogène, mais c'est un événement visible, qui a été rendu visible, qu'ils ont pu attester et dont ils ont témoigné, un peu comme on témoignerait d'une agression ou d'un événement qui se passerait sous nos yeux. Paul et Pierre seront prêts à mourir pour leur foi en la résurrection de Jésus-Christ. Pour Pascal, le théologien de l'époque moderne, dit le sang des martyrs pour lui parle plus fort que toutes les théories fumeuses qui n'engagent rien. En plus, il eût été facile de mettre fin à la rumeur. Il suffisait juste de montrer le cadavre. Or, nous ne trouvons aucune trace de cela. Pour Paul, voilà l'évangile. Voilà l'évangile, la bonne nouvelle, digne de foi. Christ est mort, il est enseveli, mais surtout, il est ressuscité le troisième jour. Oui, notre foi a un contenu. Parfois, j'ai parfois un ressenti un peu bizarre quand j'entends certaines personnes qui témoignent de leur foi. On s'évertue à décrire un cheminement qui a amené à croire sans jamais trop définir de quoi il s'agit, de quel croire il s'agit. Alors je me pose la question, mais croit-il en Dieu, en Jésus, ou croit-il justement dans leur foi qu'ils ont? Ça revient un peu sous une autre forme, dans l'engouement des chrétiens pour les biographies, expériences d'autres chrétiens. Même si ce genre de littérature est très utile et agréable, on y découvre des choses extraordinaires sur certains hommes de Dieu, cela nous apprend souvent beaucoup plus sur l'auteur que sur ce que Dieu nous a transmis. Il nous faut lire des livres qui contribuent à comprendre et à étayer notre foi. Lire la Bible avec un plan qui la survole. J'en ai un auprès de la jeunesse. Merci, Muriel. On peut lire aussi des livres qui stimulent notre foi, comme ceux de C.S. Lewis. Ou on peut aussi lire des livres qui stimulent notre réflexion sur la prière. Autre conséquence, tous les chrétiens qui croient en la mort et la résurrection de Christ corporel sont nos frères et sœurs. Ne l'oublions pas, nous n'avons pas le monopole des croyants. Ne soyons pas sectaires. Mais pourquoi Paul nous rapporte-t-il cela? Le verset 12 nous le dit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? dans la mesure où il vient de leur exposer que la résurrection de Christ est au cœur de la bonne nouvelle de la foi chrétienne, il veut qu'ils tirent toutes les conséquences de leur absence de foi dans la résurrection des morts. Et là, Paul, vous savez, il va dérouler la bobine et mesurer toutes les conséquences de leur absence de foi dans la résurrection des morts. Vous ne pouvez pas vous arrêter en route, va leur dire Paul. Vous devez aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Et voilà son raisonnement. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Verset 13. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi aussi. Prédication vide, nous sommes des témoins de mensonges. Nous, les apôtres, nous sommes des imposteurs pris en flagrant délit de mensonge. Ça craint pour des témoins de Dieu. D'autant plus qu'ils ne font que répéter cet événement pendant tout le livre des Actes. Mais ce n'est pas juste que la prédication est vide. C'est que votre foi est vaine, elle est futile, elle est inutile. Non pas qu'elle n'existe plus, mais qu'elle est toujours là, mais elle n'a plus de force. Vous êtes dans vos péchés, verset 17, et vous êtes perdu, verset 18. Si cette espérance est limitée à cette terre, en version jeune, ça craint grave. Sans la résurrection de Christ, la foi chrétienne n'est qu'une illusion. La proclamation de Christ, qu'on dit souvent mort pour nos péchés, n'a plus aucun sens. Pire, nous sommes encore sous le poids de la condamnation de Dieu, privés de sa présence, encore esclaves de notre ancienne manière de vivre. Si les morts ne ressuscitent pas, dit Paul, et si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus de bonnes nouvelles. L'évangile devient la proclamation du plus grand échec de l'histoire de l'humanité. C'est la mort qui est le dernier mot et pas Dieu. Dieu est impuissant pour changer notre condition. Plus d'espérance chrétienne au-delà de notre vie. La mort anéantit tout. L'espérance est courte, insuffisante, pour nous permettre même d'affronter les épreuves et les déceptions de la vie. En plus, ce qui les attend, nous dit la fin de notre texte, c'est une immense déception. Ils sont même dignes de pitié. Ils pensent avoir un avenir radieux et en fait, ils n'ont que la triste expérience d'avoir été trompés. Pour Paul, l'immortalité de l'âme n'est pas une réponse à l'inquiétude humaine devant la mort. Face à l'incarnation, seule la résurrection et la conséquence logique. Mais pourquoi nos frères et sœurs corinthiens avaient-ils autant de mal avec la résurrection des morts? Ne soyons peut-être pas trop vite durs avec eux. Ils restaient tout simplement marqués par leur arrière-plan, par leur culture. Leur vision du monde continuait d'impacter leurs croyances chrétiennes et même leurs pratiques. Corinthe était une ville romaine, certes, mais elle restait marquée par la culture grecque. Et ces différents courants de pensée qui, même s'ils s'opposaient, se réunissaient tous autour du refus de l'idée de résurrection des morts. Je crois aussi que nous sommes marqués par notre culture. La culture, notre culture nous marque. Les relations sont, par exemple, de plus en plus virtualisées. Le téléphone fait office d'intermédiaire dans le meilleur des cas ou d'obstacle dans le pire. Quand le SMS ou l'email ou la notification vient s'immiscer dans vos conversations. Pourtant, il n'y a pas que ça. La société nous a transmis aussi des valeurs et notamment une valeur que nous avons bien intégré, qui s'appelle l'individualisme. Nous ne sommes plus gênés de vivre notre vie chrétienne seule. Nous sommes même parfois convaincus que dans la progression de notre foi, cela dépend de nous, de notre lecture de la Bible seule, de notre prière seule avec Dieu. Même si je suis évidemment pour toutes ces choses, nous devons constater souvent l'échec individuel dans ces pratiques. Cette conviction est bien éloignée du Nouveau Testament. Pour lui, la progression de la foi passe par une communion fraternelle plus intense. Nous devrions y réfléchir. Réfléchir à de quelle manière la culture nous a profondément marqués. Sommes-nous prêts à la remettre en cause? Mais nous pourrions aussi parler de la pression de la société sur la manière dont nous vivons notre foi dans la sphère privée ou dans nos réunions le dimanche. Notre société veut que nous vivions notre foi soit dans des lieux le dimanche, soit dans des réunions, soit chez nous. C'est ce qu'elle appelle la laïcité. Je l'appelle la laïcité mal comprise. Celle qui refuse qu'on expose notre foi sur la sphère publique. Alors que la foi athée matérialiste a toute sa place. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi sur la voie publique. Mais sommes-nous prêts à remettre en cause cette pression que nous avons? Je vous encourage à lire des livres, notamment du CNEF, qui a édité des livres sur droit de le dire. Nous avons droit de parler dans différents espaces publics, à l'école, nous avons le droit de dire certaines choses, au lycée, en fac, au travail. Nous avons le droit de parler de notre foi, nous avons le droit de la vivre. Ne restons pas, n'acceptons pas cette pression qui tend à nous faire croire que notre foi doit être vécue dans notre sphère privée. Mais une autre conséquence des Corinthiens, c'est que les Corinthiens valorisaient la spiritualité au détriment de la réalité matérielle. C'est pour ça que la résurrection corporelle, ils n'y croyaient pas. C'était la conséquence. Et un des domaines où je crois nous avons été influencés de la même manière que les Corinthiens, et nous avons eu l'occasion d'en parler dans notre groupe qui réfléchit au travail, le travail ordinaire et particulièrement manuel chez les Grecs était particulièrement rabaissé. Il était la charge des esclaves pour que l'élite puisse se consacrer à des choses de l'esprit, aux arts, à la philosophie. Car pour Aristote, c'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains pour commander et d'autres pour obéir. Nous pourrions être vraiment offusqué par une telle croyance, mais je ne suis pas si sûr que ça que nous n'en soyons pas un peu infectés. Pour nous, souvent, le travail est bien un mal nécessaire. Dans cette optique, le seul travail qui mérite notre intérêt, c'est celui qui nous permet d'en gagner le plus et d'utiliser cet argent pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille et de payer ceux qui accomplissent des tâches plus ingrates. Cela nous conduit à considérer comme inférieur tout travail moins bien rémunéré. La conséquence est un peu tragique, hein. On vit des métiers qui ne nous correspondent pas mais qui sont bien payés. Ou parfois, on refuse certains jobs parce qu'ils sont indignes de nous. Une autre manière aussi de dévaloriser le travail, c'est de dévaloriser le travail séculier au détriment du travail moins noble qu'est le travail spirituel de ceux qui se consacrent à temps plein pour l'Évangile. Non, le travail est une vocation que Dieu s'est adressée aux hommes et il entend que nous le vivions comme un témoignage dans ce monde. La foi des Corinthiens impactait leur pratique. Notre foi impacte notre pratique. Ça, c'était une foi. lorsque celle-ci ne croit pas en la résurrection, ne nous sauve pas. C'est une foi qui nous perd. Mais, verset 20, mais maintenant, Paul ne peut pas se résigner aux conséquences terribles d'une impossibilité de la résurrection, non. D'ailleurs, pour une raison fondamentale, Christ est ressuscité comme prémisse pour une autre résurrection. Les prémices, vous savez, c'est comme c'est les premiers fruits de la moisson. Ils annoncent la moisson qui va venir. Et la moisson qui va venir, ultérieurement, c'est notre propre résurrection. Et comment Paul le présente ? Il fait l'analogie entre Adam et Christ, versets 21 à 23. Tous les deux ont engagé l'humanité avec une portée universelle, en tant que chef. Si cela vous étonne qu'une personne ait pu vous engager sans votre accord, imaginez que votre chef d'État, Emmanuel Macron, déclare la guerre à Donald Trump. Vous n'avez peut-être pas souhaité cette guerre. Il n'en demeure que votre président vous représente et à ce titre vous associe à cette guerre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam. Et cette guerre que Adam a déclarée, il l'a déclarée vers une guerre qu'il a engagée contre Dieu. Mais Jésus, lui, est venu en tant que nouveau chef pour établir cette fois non pas la guerre, mais la paix, pour que nous puissions vivre pour toujours avec lui. Et ça, cela a été rendu possible par la résurrection. Autant la mort nous a été donnée par Adam, autant la vie nous est donnée par Christ, puisqu'il est le premier à être ressuscité, verset 23, et nous allons le suivre lorsqu'il reviendra au verset 23. De la même manière que lorsque l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde en 2018, merci Paul pour l'image, nous pouvons dire, assis depuis notre canapé, que nous avons nous aussi remporté la Coupe du Monde. Leur victoire est quelque part la nôtre aussi. Mais nous n'en bénéficierons que lorsqu'ils ramèneront la Coupe à la maison. Du verset 24 au verset 28, c'est l'eschatologie. C'est les choses de la fin. La résurrection des morts fait partie des choses de la fin. Quand Dieu aura tout anéanti, nous dit le texte, c'est-à-dire dominera sur toutes les autorités et puissances, et y compris sur la mort. Jésus remettra alors la souveraineté à son Père et nous n'aurons plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Dieu sera tout en tous. Non que nous deviendrons comme des dieux, mais nous serons dans une proximité sans égale. Pourtant, tant qu'il y a des morts, le dessein souverain de Dieu n'est pas encore accompli. D'où la nécessité de la résurrection. Détruire la mort en lui dérobant sa réserve d'humains qui ne lui appartiennent pas, parce qu'ils appartiennent à Christ. C'est la dernière étape du plan que nous attendons. La mort fait certes partie de la normalité. On va tous mourir, c'est vrai, mais c'est l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on la relativise si facilement chez les autres. Mais pourtant, quand la mort nous atteint, quand elle nous touche, quand elle touche nos proches, nos amis, notre famille, elle nous touche profondément. La mort est notre dernier ennemi, et notre ennemi numéro un, dit le texte, verset 26. Même Luc Ferry, un philosophe athée, le dit, la quête humaine est avant tout une quête de salut, de délivrance de la mort, de cette mort séparatrice qui nous arrache à l'amour de nos proches. Pour étayer son argumentation, Paul évoque alors un baptême pour les morts. Ce baptême, dit Paul, est d'autant plus absurde si les morts ne ressuscitent pas. Cette pratique ne se retrouve d'ailleurs nulle part dans le Nouveau Testament, ni dans la première église chrétienne. Paul la mentionne à la troisième personne, sans l'approuver d'ailleurs, ni la désapprouver. Ce qui vient à l'esprit en premier, c'est le baptême des Mormons. Mais nulle part, le Nouveau Testament donne au baptême des vertus magiques. Par conséquent, dans le sillage de plusieurs commentateurs, je pense que ce baptême pour les morts signifie plutôt le baptême de ceux qui sont exposés à la mort, de ceux qui risquent leur vie. Et ça s'accorde assez bien avec le verset 30. Paul termine son argumentation en posant une série de questions. Quel est l'intérêt d'être exposé au danger et à la mort pour le Christ ? Comme cela a été le cas pour moi, dit Paul, à Éphèse, où j'ai été pris par une foule en furie comparable à des bêtes sauvages. Si les morts ne ressuscitent pas, à quoi cela sert ? À quoi sert notre engagement pour souffrir ou pour quelconque cause ? Nos causes n'ont plus de sens. Les deux derniers versets de notre texte, versets 33 et 34, lèvent le voile sur les quelques-uns du verset 12. Ils sont des mauvaises compagnies et leur compagnie a une grande influence sur l'Église. Leur foi a des grandes conséquences sur leurs pratiques, sur leur comportement. Ils sont, nous dit le texte, dans le péché et au final, ils ne connaissent pas Dieu. Paul discerne, à mon avis, en filigrane, le problème derrière tous les mauvais actes des Corinthiens. Une conception spiritualiste du monde et de la vie humaine qui ne s'accordait pas avec l'Évangile et la foi chrétienne. Les Corinthiens ne percevaient pas l'importance du corps. Ils étaient influencés par leur culture, nous avons vu tout à l'heure, par la perspective grecque qui dévalorisait la matière au profit de l'âme. En conséquence, ils avaient de la peine à envisager un salut qui inclurait tout leur aspect corporel de l'existence humaine. Ils se croyaient même spirituels déjà arrivés, verset chapitre 4. Ils pensaient posséder l'esprit et l'essentiel des réalités à venir. Dans une telle perspective, le corps n'était pas vraiment un problème. Ils étaient libres de fréquenter des prostituées. Ils pouvaient même d'autres renoncer à leur sexualité et pour soi-disant être plus spirituels. Ils traitaient les personnes qui faisaient les choses différemment de manière légère. Et il y avait une effervescence spirituelle qui régnait dans l'Église, accompagnée d'un grand nombre de désordres. Quelle vision du monde détermine mes actions ? Quelle croyance détermine mes actions ? Pour les Corinthiens, la vision du monde ambiante les avait particulièrement pénétrés, à tel point que leur conception du monde ne laissait plus la place à la résurrection des morts, et donc à celle de Jésus. Pourtant, cœur de la foi chrétienne, cœur de la foi qui sauve. Mais qu'en est-il aujourd'hui de nous ? Si vous avez encore du mal avec la résurrection, comme le dit Tim Keller, vous devriez souhaiter qu'elle soit vraie. Beaucoup parmi mes amis qui ne croient pas en la résurrection se préoccupent pourtant de justice sociale, de protection de l'environnement, du recul de la faim dans le monde, de l'écologie. Pourtant, ils croient en même temps que le monde matériel est le résultat d'un accident qui finira avec tout ce qu'il contient brûlé par le soleil. Et ils trouvent aussi décourageant qu'un si petit nombre de personnes se soucient de justice sans se rendre compte que leur vision du monde sape toute envie de faire de ce monde un endroit meilleur. Pourquoi répondre aux besoins des autres en faisant des sacrifices si à la fin rien de ce que nous accomplissons changera quelque chose à la situation ? Versets 30 et 32. Mais si la résurrection a eu lieu, si Jésus est ressuscité, alors cela signifie qu'il y a une infinité de raisons de nous investir dans le soulagement des problèmes de ce monde. La résurrection, le message de la résurrection, proclame que notre monde a de l'importance. Qu'il faut maintenant traiter les injustices et la douleur du monde actuel en annonçant le triomphe de la guérison, de la justice et de l'amour. Je cite N.T. Wright, qui a écrit un énorme livre sur la résurrection. Si Pâques signifie que Jésus-Christ n'est ressuscité qu'au sens spirituel, cela ne concerne que moi et la recherche d'une nouvelle dimension à ma vie personnelle spirituelle. Mais si Jésus est réellement ressuscité des morts, le christianisme devient une bonne nouvelle pour le monde entier. Une nouvelle qui réchauffe le cœur, même si elle ne fait pas que cela. Pâques signifie que dans un monde où l'injustice, la violence et la déchéance sont endémiques, Dieu n'est pas prêt à la tolérer. Nous travaillerons et nous nous organiserons avec toute l'énergie de Dieu pour que la victoire de Jésus s'applique à tout cela. Enlever Pâques, et Karl Marx avait probablement raison d'accuser le christianisme d'ignorer les problèmes de notre monde matériel. Enlever Pâques, et Freud avait probablement raison de dire que le christianisme est la réalisation juste d'un souhait. Enlever Pâques, et Nietzsche avait probablement raison de dire qu'il s'adressait aux ratés et aux faibles. Mais Christ est réellement ressuscité. Je t'invite à prier. Père éternel, nous savons que nous pouvons avoir foi en tous ces témoins oculaires qui ont vu Christ ressuscité et qui ont été prêts à donner leur vie pour cela. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une espérance vivante parce que notre vie, l'investissement dans cette vie sur la terre a un impact qui dure. Merci Seigneur de ce plan merveilleux que tu as prévu d'un jour nous ressusciter pour qu'on puisse être avec toi. Je prie que dans cette salle, aucun ne parte avec ce sentiment que Christ n'est pas ressuscité, mais qu'au contraire, il puisse saisir ce qui est au cœur de notre foi, qu'un jour nous serons avec lui pour toujours, grâce à la résurrection de Christ. Amen.